Ah ben oui, c'est vrai, faut y aller.
Salut. Ça va, cochonnet? Ça a passé vite aujourd'hui. On voulait refaire une autre circule.
Audrey, circulation. Pas vrai, c'est pas... Non, non. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Ensemble, prenons soin des autres. On se reparle demain, 7h55 dans le Pit Stop, 14h avec les demoiselles.
Salut, là.
Boulevard 102.1. Ce pas à tous les jours pour vous donner l'heure juste. Traitez l'actualité qui nous entoure avec les spécialistes qui savent de quoi ils parlent.
Oh my God, I can't believe it.
Boulevard décortique. Boulevard rassemble. Rassemble. Come together. Boulevard 102.1. La radio de l'extrême centre au Québec. Maintenant, 100% talk. Une propriété Leclerc Communication. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir.
Mon invité de ce soir, je suis très content de l'accueillir, c'est Véronique Dicker. Elle est chanteuse, imitatrice, on peut dire comédienne aussi. Là. Elle travaille
beaucoup ces temps-ci.
Salut Véronique!
Allô!
Merci d'être là. Je lisais ta biographie puis je me suis dit, tabarouette, est-ce que j'ai affaire à une dame qui a à peu près 300 ans aujourd'hui? T'en fais donc bien des affaires depuis le début de ta carrière.
Ah, merci! Non, si c'est ça mon âge, je vais vous donner le secret de mes crèmes rajeunissantes. Oui, c'est vrai que j'en fais beaucoup de choses, mais je suis une... Je pense que moi, mes premières expériences de scène, donc de comédie musicale,
ouais,
ont beaucoup teinté sur ma carrière de chanteuse, mais aussi, tu sais, d'imitatrice. Puis je pense que ça a eu une influence assez importante sur l'ensemble de ma carrière, puis de devenir... tu sais, je pense qu'il faut un peu de tout ça pour faire de la comédie musicale. Fait que moi, je suis très contente que dans mon métier, je puisse transférer ces éléments-là dans des projets précis comme au cinéma, comme au théâtre, comme sur scène ou chanter. Donc, moi, ça me convient très bien d'avoir ces différents... ces différentes expériences et ces différentes cordes à mon arc.
À quel âge Véronique Dicker a commencé à rêver de faire ce métier-là?
Oh, c'est typique, hein? Moi, c'est typique. J'avais 4 ans, je pense, puis je faisais des spectacles avec un bâton. Là, je vais dévoiler mon âge, mais tu sais, j'avais des petits bâtons Fisher-Price. Puis C'était ça, mes micros. Puis j'avais aussi une cousine qui chantait semi-professionnelle, c'est-à-dire qu'elle faisait des concours, puis on la voyait à la télévision. Puis moi, ça m'a beaucoup, beaucoup influencé, ça. Donc, je voulais donc faire comme ma cousine. Donc, j'ai commencé à chanter très jeune. Puis même à l'école, c'est ça qui me motivait à aller à l'école. Je faisais partie de la chorale, donc... Tu sais, dès la troisième année, je me rappelle, en troisième année, là, j'avais déjà eu des solos dans des petits spectacles. En quatrième année aussi, j'avais des solos pour le spectacle de Noël. Donc, ça remonte à très, très longtemps, là, mes débuts de chansons.
Oui. Puis à quel âge tu as commencé à te dire, « Oh, tabarouette, je pourrais en faire carrière? »
Je pense que je me suis jamais posé la question parce qu'on dirait que c'était comme pour moi une évidence de faire carrière là-dedans.
Ah oui,
naïvement.
Okay.
Non, mais naïvement, tu sais, je veux dire, je me rappelle, on était allé faire un spectacle dans un foyer pour personnes âgées.
Ouais.
Pour un spectacle de Noël, puis j'étais en cinquième année. Et là, on finit le spectacle, puis on va rencontrer les personnes. Puis il y avait une petite madame qui m'avait pris la main, puis elle m'avait dit... toi, là, tu vas aller loin, tu sais, puis on dirait que je l'avais cru, comme, puis on dirait que c'était pour moi, c'était une évidence, dans ça, c'est pas d'aller loin, mais de faire ça dans la vie, puis j'ai fait, ah ben oui, c'est sûr, oui, je vais faire ça dans la vie, jusqu'à temps que j'arrive à l'école secondaire, puis que je rencontre un orienteur, puis que lui, il me ramène un petit peu à la réalité, de me dire, ben Véronique, si tu veux faire quelque chose dans la vie, Je pense pas que c'est par la chanson que tu vas réussir. Tu sais, je pense que c'est il te faut un métier de 9 à 5. Puis moi, encore là, on dirait que ça me rentrait pas dans la tête de faire ça, tu sais, de me dire, ben non, donc, ça fait très, très longtemps que je sais que je veux faire ça. Puis même à l'école secondaire, je me dis qu'il n'y avait pas d'autre option que ça.
Parce que le monde artistique, on va se le dire, là, pour bien vivre dans le monde artistique, il y a beaucoup de gens qui se sentent appelés vers ce merveilleux monde-là, mais il y a très peu d'élus qui sont capables de vivre de leur art.
Bien, moi, il faut que je t'explique. Moi, je viens de l'Ontario, de l'Ontario francophone, encore pire, parce que, je veux dire, à cette époque-là, c'était rare des gens de l'Ontario qui traversait, il y en avait beaucoup qui avaient essayé, beaucoup, tu sais. Bon, il y a eu des gens avant moi, bien évidemment, qui ont réussi à faire une carrière décente, mais il n'y avait personne qui avait eu cette espèce de breakthrough, là, tu sais, de chance-là. Donc, moi, j'ai... Puis après, bon, aujourd'hui, on est très, très ouvert, les frontières sont ouvertes, là, tu sais, puis on en voit plein d'artistes, là, franco-ontariens, Damien Robitaille, Mélissa Ouimet, tout ça, puis c'est, tu sais, comme let's go. Mais à l'époque, c'était pas tant populaire En tout cas, la porte n'était pas ouverte, tu sais. Donc, pour ma part, c'était très naïf, mais en même temps, ça demandait beaucoup de volonté, puis de dire à mes parents, tu sais, de leur dire, écoutez, moi, je veux faire ça, je veux l'essayer. Donc, j'ai terminé mes études secondaires de l'Ontario. Puis, au lieu d'aller au collège ou à l'université, je me suis dit, bien, je vais prendre un break, puis je vais essayer, je vais miser. Puis, let's go.
Ça semble avoir fonctionné. Mais ce que je retiens, c'est la dame qui t'a pris personnellement, puis qui t'a dit, tu vas faire un métier là-dedans. Des fois, on n'est pas capable de... C'est pas palpable tout de suite, là, les gens qui nous disent des choses qui nous restent à tout jamais dans la tête. Moi, j'en avais parlé, j'ai fait le 80e de la famille qui m'avait accueilli quand j'étais jeune, tu sais. Puis le Rosaire avait 80 ans, puis je me souvenais d'une chose qu'il m'avait dit, c'est que j'abandonnais jamais. Je devais avoir 7 ou 8 ans, puis il m'a dit, toi, là, t'abandonnes jamais. Puis on dirait que juste cette phrase-là, ça m'a suivi toute ma vie. Puis je sais pas si c'est parce qu'il me l'a dit ou si c'est parce que c'était en moi, mais j'ai jamais, jamais, jamais abandonné, même dans des situations qui étaient assez périlleuses, que ce soit dans la carrière ou encore dans les relations amoureuses, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, l'impact de cette dame-là qui t'a pris à part, qui t'a dit de belles choses, ben tu t'en souviens encore, tu sais.
Oui, puis c'est beaucoup aussi les professeurs, tu sais, à un moment donné, quand on revient à cet orienteur-là qui m'avait dit, ben il faut que tu trouves un métier. Puis moi, j'étais très attirée vers la médecine, donc je voulais vraiment aller infirmière. Je me disais, les deux mains dans le sang, moi, il n'y a pas rien là, tu sais. Puis j'aimais ça, même que ma mère était secrétaire médicale, j'allais la voir après l'école, puis je fouillais dans les encyclopédies des docteurs, puis j'aimais ça trouver les maladies bien bizarres. Fait que j'aimais bien ça. Puis quand j'ai orienté mes études vers ça, ben là, mes professeurs de chimie, mes professeurs de sciences, ils m'ont vu arriver. Et là, ils m'ont dit, Véronique, excuse-moi, là, mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est quoi que tu fais ici? Parce que ils ont dit, c'est pas vraiment ta tasse de thé, à mon avis, de faire de la science. Fait que va finir tes arts, va finir ton français, tout ça. Puis tente donc ta chance. Puis c'est pas parce que ces professeurs-là me voyaient pas de potentiel dans la médecine. Je pense pas que c'est ça. Je pense que les autres, ils voyaient même plus que moi mon potentiel. Donc, c'était intéressant. Puis, c'est des petits déclics comme ça qui m'ont fait réaliser que, ah oui, OK, peut-être que ça serait possible.
Tes parents, y croyais-tu?
Mes parents, ben non, ben non, ben non. Mais non, mais non, mais non. Ben non, ben non. Hey, mon père Gaétan, qui vient d'une famille de 13 enfants, tu sais, à un moment donné, j'avais un job, j'étais chroniqueuse jeunesse au téléjournal de Radio-Canada dans l'Outaouais. Et je me rappelle, il venait me reconduire, tu sais, à l'autobus, puis on était dans son auto, un vieux Tempo Ford, là, tu sais, puis qu'il n'y avait plus de. Le fond gelait, le pion gelait, puis j'attendais l'autobus pour qu'il m'amène à Ottawa. Il me regarde, c'est bien sérieux, là je sentais que c'était comme une discussion de père-fille là, qu'il voulait avoir, puis il me regarde, puis il me dit, tu sais, fille, c'est une bonne job, hein, Radio-Canada, tu sais, il y a une bonne pension, tout ça, puis hey, je l'avais arrêté tout de suite, j'avais dit, tu sais, moi, dad, là, la différence entre moi puis toi, c'est que le matin, je vais me lever, puis je vais aimer ça aller travailler. Puis là, il m'avait... Et, écoute, il avait... en prenant une gorgée, c'était comme quasiment étouffé dans son café du matin.
Ouais.
Puis il avait ri. Il avait ri parce qu'il avait compris cette démarche-là. Puis moi, j'avais toujours dit, tu sais, moi, je vais l'essayer autant que je peux. Puis j'ai la volonté aussi que si à un moment donné, je me rends compte que ça ne fonctionne pas, c'est sûr que je vais pleurer et tout ça, mais c'est sûr que je vais mettre autant d'énergie dans la suite que dans ce que je fais présentement pour ma carrière.
Puis la jeune Véronique Dicaire, est-ce qu'elle a commencé par l'humour? Est-ce qu'elle a commencé par les imitations, par le chant?
Bien, c'est intéressant parce que j'ai un peu des deux. Tu sais, je te parlais tout à l'heure du spectacle de troisième année que j'avais fait, puis j'avais fait un petit personnage. L'enseignant m'avait demandé de faire une petite vieille qui faisait un petit monologue, puis j'avais fait un monologue. Puis après ça, je faisais aussi une imitation du personnage de Pauline Martin dans Samedi de rire.
Oui, avec les gros yeux.
je me rappelle plus c'est qui. C'était pas M. Mongrain, mais c'était un autre personnage. Tu sais, était full en amour avec Pierre Marcotte. En tout cas, je me rappelle plus de son nom. Mais moi, je m'amusais. Puis Smoke Meat aussi. Moi, le Pauline Martin, c'était mon idole de jeunesse. Parce que je trouvais ça donc bien hot qu'elle fasse rire les gens. Ouais. Donc, moi, j'avais beaucoup plus le désir de faire rire les gens. Puis, à un moment donné, c'est quand j'ai commencé à chanter en solo que je me suis rendu compte que là, les gens vivaient des émotions avec ma voix, puis ils vivaient des émotions. Fait que là, je me suis dit, ah, OK, ça aussi, c'est intéressant. Donc, mais je pense que les premières expériences scéniques que j'ai eu, c'était en troisième année, puis c'était pour faire un personnage, puis des petites mini-imitations. Puis je m'amusais beaucoup à taquiner mes enseignants, mes enseignantes, en les imitant.
Quand est-ce que ça a commencé à bien fonctionner pour Véronique Dicaire?
Bien, moi, je pense que mon premier album, Phil Happy, tu sais, ça, c'était comme c'était un single radio qui a fonctionné, puis je me rappelle, là, pendant l'été, puis il y a tellement de jeunes qui viennent me dire aujourd'hui, tu sais, des trentenaires là, qui me disent « Hey, ben non, V, là, my God, Phil Happy, c'était notre toune d'été, puis on tripait donc. » Puis je m'en rends pas compte tant que ça, à quel point ça a eu un impact sur cette génération-là. Donc, moi, je pense que ça, je le vois comme un premier succès. Tu sais, je le vois comme une première petite entrée sérieuse pour avoir une certaine notoriété dans le milieu. Mais ça a été, après ça, plein de petites expériences. Mais je pense que il y a une analogie que j'aime beaucoup, que Raymond utilise, que c'est comme, tu sais, on a été dans la voie de service pendant un bon bout sur l'autoroute, tu sais. Puis ça allait bien, tu sais, je me plaignais pas d'être sur la voie de service, tu sais, c'était une longue voie de service. Mais tu sais, à un moment donné, j'ai mis mon clignotant, puis j'ai fait comme, OK, let's go, on embarque sur l'autoroute. Puis ça, je pense que c'était en 2008, quand j'ai fait la première partie de Céline, que quand ça a explosé, bien, j'étais prête. J'étais prête parce que j'avais vécu tellement d'expériences sur ma petite voie de service que quand c'est arrivé, j'ai fait comme « OK, let's go, je suis prête.
Okay. » Comment t'as fait pour te rendre à René Angélil et Céline? C'est eux qui t'ont contacté? C'est ton agent
qui les
a contactés?
Je travaillais sur mon troisième album avec plein d'auteurs, compositeurs, avec entre autres Marc Dupré.
Ouais.
Puis à un moment donné, on est dans son studio à la maison, puis on travaille sur une chanson. Puis après, il me demande si je suis capable d'imiter, parce qu'il m'avait vu imiter, par exemple, Céline. Il m'avait vu imiter plein de gens là, à la télévision là, pour demande spéciale, puis entre autres. Puis à un moment donné, il dit, ben, es-tu capable d'imiter une telle? Fait que là, on s'amuse dans son studio. Puis à la fin, avant de partir, il dit « J'aimerais ça proposer ton nom à Céline et René pour faire sa première partie quand elle va venir à Montréal pour sa tournée mondiale en 2008. »
Tu devais pas vraiment y croire là, quand il t'a dit ça.
Ben moi, tout de suite, en fait, j'ai dit « Ben oui ». J'ai dit oui tellement que je suis embarquée dans la voiture puis j'ai dit à mon chum Raymond, qui est aussi mon agent, j'ai dit « Raymond, je pense que je viens de faire une gaffe. Je pense que je viens de dire oui à quelque chose que j'aurais pas dû. » Puis Raymond était tellement content parce que lui, il voyait cette espèce de potentiel-là que j'avais d'être imitatrice parce que je le faisais dans mes petits spectacles. Je faisais des imitations, puis j'avais beaucoup de réactions par rapport à mes imitations, beaucoup plus que, des fois, mon matériel. Donc, lui, il voyait ça, mais il essayait donc de me convaincre, tu sais, de pencher plus vers ça. Et quand on a eu cette opportunité-là, que Marc a proposé mon nom, ben là, s'en est suivi toute une série de travail d'imitation avec mon professeur de chant. On a fait des vidéos aussi pour envoyer à René et Céline pour valider si oui ou non je faisais la job. Puis lui, il était hyper content, tu sais, il était super content de cette tournure-là parce qu'il voyait le potentiel. Moi, je le voyais moins parce que je voulais être une chanteuse, puis je voulais être une artiste, puis je considérais pas tant que ça que être imitateur, c'était plus dans l'humour, puis moi, je me trouvais pas drôle. Okay. Je voyais pas tant ce côté-là, plus chanteur, d'imitateur, tu sais. Donc, j'ai eu beaucoup de difficultés au début à accepter ça.
OK. Puis, as-tu la difficulté à rencontrer René, Céline? Est-ce que tu appréhendais
l'événement? Oui, c'est ça, parce que c'était ça ta question.
Oui.
Puis après ça, donc, quand on a eu la validation de René et Céline, que c'était nous qui faisions la première partie, bien là, on s'était dit, toute l'équipe de Céline et aussi nous, on s'était dit que ça serait intéressant de rencontrer Céline, mais pas la première partie, tu sais, au Centre Bell. C'est beaucoup ouais. d'émotions, c'est beaucoup de choses. Donc, on s'était rencontrés au club de golf. Il y avait un événement pour la fondation de Maman Dion, je crois. Puis elle était là. Et puis, on s'est rencontrés comme ça, dans les coulisses. Puis là, on a sympathisé. Puis j'étais beaucoup plus relaxe quand je suis arrivée pour la première partie au Centre Bell. Je me rappelle, j'étais super relaxe. Puis c'était comme, OK, là, c'était cassé, tu sais. Tout ça, c'était comme bien établi, puis j'avais pas à être nerveuse pour ça. Je devais plutôt être nerveuse pour les 20 000 personnes qui allaient me voir. Puis après mon premier spectacle de première partie, c'est là que, bon, évidemment, on avait rencontré René et tout ça, mais c'est là que René est venu me voir après puis pour me dire si ça vous tente, moi, je pourrais vous donner un coup de main pour votre carrière. Puis, hey, là, moi puis Raymond, on s'est regardé, on a fait comme « Oh my God! » Donc, c'est là que... Et c'est vraiment au Centre Bell, dans une salle de VIP avec la machine à hot-dog du Centre Bell à côté, que René, entre ma première partie puis le spectacle de Céline, qui me dit « Moi, si ça vous tente, on ferait un bout de chemin parce que j'aimerais ça travailler avec vous autres. » Et là... On est revenu à la maison, on ne s'est pas parlé du Centre Bell au Laurentides, qui est 50 minutes de conduite. Là,
qu'est-ce qui vient de se passer là?
Hein? Ben absolument, ouais. Ben oui, absolument.
Ça devait être assez impressionnant quand même, 20 000 personnes autour de toi au centre Bell qui sont là, puis toi tu réalises ton spectacle. Est-ce que tu faisais les imitations dans ce spectacle-là? Est-ce que tu imitais Céline?
J'imitais Céline, il m'avait donné la permission de l'imiter. J'ouvrais le spectacle avec... Il m'avait même permis d'utiliser l'ascenseur au centre de la scène, puis de monter. Puis j'étais dans la pénombre, et puis j'avais une perruque, puis j'imitais Isabelle Boulay. Puis ça, c'était fascinant, parce que tellement que les gens pensaient que c'était elle, ça, c'était comme... Puis René, il avait fait tout un gros comme stunt commercial de ne pas dire qui allait être la première partie.
Okay.
Il arrêtait pas de dire au public, ça va être une surprise en entrevue. Il disait, non, ça va être une surprise, vous allez voir, c'est une surprise. Donc, ce qui fait qu'il y a des journalistes qui avaient envoyé, par exemple, la nouvelle de dire « C'est Isabelle Boulay qui fait la première partie de Céline Dion », sans même voir la suite, puis de voir que c'était moi, finalement. Puis j'enlève la perruque, je dis que c'est Véronique Dicker, bonjour. Puis les gens étaient comme... c'est... Même Isabelle, elle me dit moi, je pensais que c'était moi sur scène, mais c'était pas possible parce que c'était toi. Là, je comprenais plus, tu sais, je dis, ah ben là, j'ai bien fait ma job,
ouais.
J'ai bien fait mon travail. Donc oui, c'était spécial. Une chanson, je faisais une imitation, il y avait des ovations. Puis moi, j'avais 28 minutes. On m'avait dit, Véronique, t'as 28 minutes. Alors là... J'avais des ovations, puis je disais au monde de s'asseoir parce que j'avais peur de dépasser mon 28 minutes pendant 6 ovations debout. Puis là, j'étais là, merci, mais j'ai pas fini. Je savais pas comment réagir. Fait que là, c'était comme, c'est ridicule. Puis ouais. Après ça, on m'avait dit, Véronique, prends ton temps, là. Tu peux les prendre des ovations, là. Prends ton temps.
Est-ce que c'est à ce moment... est-ce que c'est à ce moment-là que ça a fait un boom pour toi? T'es-tu senti un peu dépassé? Parce que là, ton nom était sur toutes les lèvres, là. Ça a été des ovations, ça a été un gros bang pour toi, là.
Bien, je me suis pas sentie dépassée là. C'est après. C'est le coup après. Quand, par exemple, on a commencé à mettre en vente un spectacle d'imitation, puis là, mettons, ça, c'était au mois d'août, puis déjà en février, je faisais les premiers shows de rodage, mettons, puis en fin février, bien, je commençais ma tournée. Ça, ça a été un petit peu plus ardu puis plus difficile pour moi. Parce que là, il y avait des attentes, il y avait un stress d'accompagner avec ça. Ça a été un peu plus stressant, cette période-là, pour moi. Parce que justement, tu sais, les billets en plus, on avait mis en vente les spectacles, puis tout était sold out. Donc, pour moi, c'était un beau... Puis je me plaindrai pas de tout ça, c'était un super bel événement. Mais là, il y a comme toute l'idée que les gens ont des attentes. Et là, ça me stressait beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Il te reste à livrer. Puis comment René Angélil t'a aidé au travers de ta carrière, mis à part de te laisser la première de Céline au Centre Bell à ce moment-là?
Oh mon Dieu! Bien, tout, en fait, tout, il était très stratégique, hein, comme dans tout... Tu sais, on le connaît, c'est un joueur, puis ça reste que dans la vie aussi, il y avait des stratégies, tu sais, puis lui, il avait dit à Raymond, premièrement... Il n'était pas question que lui soit mon agent ou mon gérant. Il avait dit, tu sais, Raymond, tu fais une bonne job. Moi, je pense qu'on peut travailler ensemble pour la carrière de Véronique. Si tu es d'accord, moi, je vais être comme ton conseiller, puis on va le faire ensemble. Ça, d'abord, du côté de Raymond, c'était super valorisant d'avoir cette espèce d'opportunité-là de travailler avec René Angélil. Mais après ça, d'arriver, puis de dire, OK, là, on va faire une stratégie. On va avoir la France. Puis là, on va faire le Québec d'abord. Puis après ça, on va aller en France. Puis après ça, on va aller à Las Vegas. Fait que déjà là, ça, c'était sur le tableau de... C'était sur notre tableau de bord. Donc là, il nous a permis... Moi, j'ai toujours qu'il m'a donné les clés pour aller ouvrir les portes. Fait que là, j'allais ouvrir la porte de la France. Puis là, après ça, la job me revenait pour assurer que je fasse bien ça, puis tout ça. Puis c'est là où ce qui a été d'une grande générosité, c'est qu'il a ouvert son carnet d'adresses, puis tu sais, il a appelé tous ses amis pour justement leur dire que j'existais. Après ça, ben ces amis-là m'ont invité, puis après ça, ben moi, après ça, il fallait que je fasse la job. C'était stressant, par exemple. Ça, c'est comme... Quand il dit « il faut juste que ça soit bon », c'est une petite phrase qui veut rien dire, mais qui veut dire très... beaucoup dans le langage de René Angélil. Fait que c'est là où il a été très, très, très utile. Puis c'est là où j'en serai toujours reconnaissante parce qu'il me fait vivre des expériences extraordinaires.
Exact. Tu es parti de l'Ontario. Bon, il y a quand même... Il y avait beaucoup de monde en Ontario. Il y a beaucoup de monde au Québec, mais ça n'a rien à voir avec la France. C'est un autre marché, la France.
Oui.
Ça a-tu été complexe d'arriver là? T'sais, les gens ne te connaissaient pas. Vous avez fait comment pour faire connaître Véronique Diquaire en France?
Bien, on est parti pendant presque 3 mois. On s'est installé dans un appartement à Paris. Puis après ça, on s'est installé dans un théâtre qui s'appelait, et qui s'appelle toujours le Théâtre de la Gaîté Montparnasse, qui est un petit théâtre de 400 places. Mais 400 places pour une personne qui commence quand même beaucoup. Ça allait super bien. Au début, les 2 premières semaines, ça allait bien. Puis après ça, la 3e semaine, il avait oublié de nous dire que c'était les vacances scolaires. Puis les vacances scolaires, là-bas, ça veut dire que toute Paris se vide.
Oh!
Fait qu'à un moment donné, on faisait du remplissage. Pendant la 3e semaine, on faisait du remplissage. Hey, il allait chercher le monde sur le trottoir. Là. Fait que j'ai fait... Il y a des itinérants qui sont venus voir mon show pour se réchauffer. Parce que... Puis... Mais là, après ça, tu sais, après le spectacle, je marchais, puis souvent, on marchait pour revenir à la maison, tu sais, puis je disais à Raymond, « Hey, man, je dis Raymond, c'est là que tout le travail commence, c'est qu'il faut aller les chercher un à un,
un à un,
puis il ne faut juste pas lâcher, tu sais. » Puis j'étais contente de cette espèce de révélation-là que je me dis, OK, Véronique, tu sais, faut pas que tu te décourages, là, faut que tu y ailles. Fait que je faisais un spectacle pendant, je faisais le show pour six fois par semaine. Puis j'avais une journée de congé, puis à toutes ces journées de congé-là que j'avais de la promo. Fait que je lâchais pas. Fait que c'était du 7 jours sur 7 pendant 3 mois. Je pense que j'ai eu un lundi de congé, puis je suis arrivée, puis je broyais, puis j'étais contente de manger un souper chaud. Puis, mais c'était ça. Aller s'installer là-bas, ça veut dire qu'il faut vraiment s'investir. Donc, c'est pour ça qu'on voit tant de comédiens, de comédiennes, à un moment donné, partir puis aller s'installer là-bas. Parce qu'on n'a pas le choix de s'imprégner et de faire sentir aux gens qui sont là qu'on est là. Donc, moi, j'ai pas eu le choix de faire ça. Puis ça a porté fruit parce que 11 mois après, je faisais mes 4 premiers Olympia sold out. Donc, j'étais comme. Puis là, après ça, fallait. Écoute, ça allait tellement vite, là, qu'au départ, moi, au théâtre de la Gaîté Montparnasse, mon décor, c'était une petite scène, là. C'était une petite scène. Donc, j'avais un banc puis une table. Puis, je suis arrivée, là, genre, un an après, je faisais le Forêt nationale, qui est une salle de 7 000 personnes, avec une petite table pas un banc, mais sur une scène qui est grosse comme un centre.
C'était
Là,
immense.
José Fortier, ben non, mais José Fortier puis moi, qui était à la mise en scène, on riait, mais on se disait, oh là là, ah oh ouais, OK. Puis là, on rajoutait des lumières, puis on se disait, OK, on voulait être généreuse, mais tu sais, ça allait tellement vite
Ah,
qu'on n'avait
sûrement.
pas le temps de
Parce
s'ajuster. Donc,
qu'on a
c'était.
tendance à penser que le Québec, c'est un gros marché, mais c'est une bourgade de 9 millions de personnes. En France, on est presque à 70 millions de personnes. Donc, des salles
Ah,
de
c'est.
spectacle, il y en a, des stations de radio, des stations de télé, des journaux, il y en a. Fait que c'est constamment travailler, travailler, travailler là-bas, 7 jours sur 7, pour essayer
Oui,
de parler au
absolument.
plus de monde possible, de se faire voir le plus de monde possible. Vous avez travaillé pas pire, là.
Ah oui, absolument. Parce que moi, au début, quand on est parti en tournée, bon, j'arrivais plus tôt. Et là, j'allais faire toute la tournée des médias. Puis après ça, je faisais le spectacle le soir ou le lendemain. Puis là, après ça, tu sais, c'était comme tout le temps, là, c'était vraiment toute une aventure de partir en tournée comme ça. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était bien intense. C'était bien intense, mais en même temps, c'était ce que je voulais. Fait que j'avais pas à me plaindre,
Tu l'as
tu
vécu.
sais.
Est-ce que c'était compliqué? Là, tu veux pas, tu sais que tu t'en vas en France, donc nécessairement, il va falloir que tu tentes d'imiter des grandes chanteuses de la francophonie. Est-ce que tu as dû réapprendre quelques
Ah
tonalités de
oui.
certaines chanteuses? Oui.
Oui, j'ai dû complètement adapter mon matériel. Tu sais, je dis, si je faisais ma Chantal Toupin, ils ne connaissent pas c'est qui ma Chantal Toupin. Je dis, c'est pas méchant, mais c'est juste que c'est. Je dis, les gens ne le connaissaient pas, donc il fallait absolument que je sois au courant d'abord. Donc là, des chanteuses qu'il y avait. Donc là, je mettais la radio de là-bas, chez nous. Puis là, j'écoutais la radio, puis là, j'écoutais le. OK, une telle, c'est un hit. OK, il faut que je l'écrive, il faut que je l'imite. Donc j'étais constamment en adaptation, là. Puis oui, effectivement, ils connaissaient, bon, les Américaines, comme ils connaissaient, bon, évidemment, Céline, mais
Ouais.
tout le reste était à travailler. Donc, ce qui fait que, oui, c'est énervant de s'installer puis de se dire, OK, là, je vais faire Édith Piaf. Là, tu dis, OK, Véronique, là, Édith Piaf, c'est comme leur Céline Dion, là. Fait que. Assure-toi de bien la maîtriser, puis surtout que ça ne soit pas une caricature, parce que moi, c'était ça le mot d'ordre de mon spectacle, c'est je ne caricature pas les chanteuses que j'imite. Pour moi, c'est important d'être dans la justesse vocale et non dans la caricature. Puis je m'étais toujours dit, si à un moment donné, tu es devant une Vanessa Paradis, ben faut que tu aies le guts de l'imiter devant elle. T'sais, donc, c'était toujours ça que je me disais, moi, dans
T'as-tu
mon
déjà
approche.
imité Céline Dion devant Céline Dion?
Oui, ça, tu me l'as dit. Tu m'as posé la question plus tôt,
Ouais.
puis j'ai oublié de te répondre que
Ouais.
oui, je l'imitais, puis elle trouvait ça bien drôle.
OK.
Puis là, elle s'est mise à me coacher pour me dire, Ben là, là, faut que tu te mettes à terre, là. Tu sais, là, tu vas voir dans le show, je me mets à genoux, là. Puis là, ah ouais, let's go, là, championne. Puis tu sais, écoute, c'était ridicule.
Mais ça doit être, c'est weird. Mais ça doit être de l'acrobatie quand même. Faut que tu tentes d'imiter la meilleure chanteuse au monde. Ça, c'est beaucoup d'efforts, ben, j'imagine.
Oui, oui, c'est beaucoup d'efforts, mais c'est pas tant elle qui me demande le plus d'efforts. Parce que je pense que quand on est jeune, en tout cas, toutes les chanteuses de ma génération, on a toutes chanté Céline Dion. On a toutes imité Céline Dion. On a, tu sais, c'est notre chanteuse fétiche, là, tu sais, je veux dire, c'est... Donc, il y a quelque chose dans les voix de ma génération qui a une graine de Céline. Il y a tout le temps quelque chose, à un moment donné, tu vas voir, il y a un petit réflexe ou il y a une petite... il y a un petit tic, il y a une petite manie vocale qui est empruntée à Céline. Donc, pour moi, ça a été... quand même assez facile de me coller à sa voix. La plus difficile pour moi, c'est Whitney Houston. Whitney Houston, c'était difficile, puis Tina Turner, parce que Tina Turner, quand je suis arrivée, puis je me suis dit, OK, go! Hey, là, j'avais peur de me scraper la voix en bon français. J'avais tellement peur de me coller sur sa voix que j'y allais, je freinais beaucoup, beaucoup dans mes élans vocaux quand j'allais imiter Tina Turner, par exemple.
Ben, mettons qu'on prend ça pour les gars aussi. Il y a des gars qui ont eu une drôle de vie, qui ont pris énormément d'alcool, qui ont fumé beaucoup de cigarettes, qui se ramassent avec des nodules, ces cordes vocales, puis on les entend, les nodules, des grosses voix graves. Je sais pas si c'est la même chose pour les filles, mais pour les gars, quand tu pars avec une petite voix claire comme moi, puis il faut que tu imites quelqu'un qui avait une voix hyper grave, ça doit demander un entraînement monstrueux, là.
Ben oui, puis j'avais une professeure de chant avec qui je travaillais, puis tu sais, j'arrivais, puis là, on pouvait passer là, l'heure de chant juste sur une voix, par exemple. Comme là, on travaillait là, sur Tina Turner. OK, comment aller chercher, puis comment tromper le passage de la voix, puis dire, hey, non, va pas là à la place, va là, tu sais, puis, mais ça, faut connaître son instrument, puis j'avais... T'sais, j'avais une quinzaine d'années de cours de chant avec elle, ce qui fait que je connaissais bien mon instrument. Et ça, ça m'a permis d'aller dans les différents chemins. Puis même qu'en faisant des imitations, j'ai mieux compris ma voix. Parce que c'était comme, « Ah, OK, c'est pour ça que je fais ça, telle affaire comme ça. » Puis je me suis fait expliquer par un ORL en France, puis je ne sais pas à quel point c'est pertinent dans la discussion, mais il me disait que j'avais une corde vocale plus asymétrique, ce qui me permettait de truquer la voix, puis de faire des acrobaties un peu plus facilement avec ma voix, puis que j'avais un larynx hyper, hyper comme lousse et flexible. Donc, ce qui fait que... Puis lui, il avait remarqué ça chez d'autres imitateurs et imitatrices. Donc, selon lui, c'est ça qui ferait la particularité d'un imitateur, c'est cette espèce de morphologie-là qu'on aurait. Mais donc, en faisant des imitations, j'ai mieux compris ma voix. Puis j'ai mieux compris aussi les difficultés que j'avais de chanter. Je me disais, voyons, pourquoi je suis pas capable de faire ça? Puis on dirait que en faisant des imitations, ça l'a ouvert tout ça. Puis là, je fais comme, ah oui, là, je connais ma voix par cœur. Presque par cœur.
Une Céline Dion, tu as été capable d'imiter Céline Dion. Une Édith Piaf, quand tu es arrivé en France, il fallait que tu imites Édith Piaf. Ça te prend combien de temps à peu près être capable d'avoir la bonne intonation pour tromper les gens?
Ça dépend. Il y en a que ça arrive bien vite. Comme Pink, je l'écoutais puis j'avais bien peur de Pink. Là, je me disais, ah non, Pink. Puis j'ai arrivé puis je l'ai fait. J'ai fait, oh, coup de grâce, c'est, oh yes, j'ai Pink. Puis après ça, j'ai écouté Lara Fabian, puis je me dis, oh, ben, Lara Fabian, c'est facile, dans le sens où on l'a tellement chanté quand j'étais jeune, tu sais, puis c'était... Hey, là, ça a été plus difficile. C'était beaucoup plus technique que je pensais. Donc, ça peut prendre des semaines. Barbra Streisand, là, je pense que j'ai travaillé dessus pendant 5 mois, là, avec ma prof de chant, là, quand je préparais mon répertoire pour Las Vegas. Ça m'a pris, là, des mois et des mois à faire Barbra Streisand. C'était long. Puis, il y en a d'autres que c'est des coups de grâce. Il y en a d'autres que ça arrive tout de suite. Puis là, t'as juste à retravailler un petit peu pour juste s'assurer qu'elle soit bien dans le corps. Mais après, c'est ça. C'est, le travail n'est jamais le même d'une voix à l'autre.
Donc, Véronique Dicker est partie de l'Ontario vers le Québec vers l'Europe, par la suite, Las Vegas. Est-ce que c'était toujours avec le contact de René Angélil que vous avez réussi à atteindre
Absolument.
Vegas? Ah ouais. Puis, est-ce que ça te faisait peur? Bien, quoique tu es né dans une province qui était quand même assez anglophone, là, même si tu es né dans une communauté francophone, l'accent, est-ce que ça te faisait peur en arrivant à Vegas?
Ben oui. Oui. Hein? Ben oui. Comme tu dis, je viens d'une communauté francophone. Je veux dire, on connaissait les familles anglophones dans mon village. Il y en avait peut-être cinq, là, c'est pour te dire. Puis moi, c'était « I do go Ottawa yesterday, small, medium, large ». Ça s'en tenait à ça. Mais j'écoutais beaucoup la télé anglophone, je la comprenais. Tu sais, j'avais l'oreille déjà de former. Puis quand on a commencé à penser à Las Vegas, tout de suite dans l'auto, Ray puis moi, on s'était dit « OK, aussitôt qu'on est dans l'auto, on parle en anglais ». Fait qu'on s'était dit ça. Fait que là, à chaque fois qu'on rentrait dans l'auto, là, c'était « Hi, Ray! How are you? I'm good! » And you... Là, on se parlait en anglais. Puis, il travaillait avec moi, mes verbes. C'était ça qui m'angoissait beaucoup. Les verbes, tu sais, « Oh, mon Dieu, comment je vais... » Puis finalement, à un moment donné, quand t'es dans le bain puis que tu baignes là-dedans, ça revient, puis il y a quelque chose, tu sais, que c'est un automatisme après. Tu sais, moi, des fois, je faisais des entrevues, tu sais, en français, puis après ça, en anglais, je savais plus comment parler. Là, mon cerveau était comme... Puis en plus, pendant une année de temps, on faisait 3 spectacles en même temps. Donc, on faisait Las Vegas, on faisait la France, puis on faisait le Québec. Ça a été une année où j'ai atteint, l'élite dans les points de voyage de Air Canada.
Et une fois que tu as travaillé une voix puis tu l'as intégrée, est-ce que tu es capable de ne pas le faire pendant 6 mois, puis après ça, la refaire, puis comme si tu l'avais jamais... comme si tu n'avais jamais arrêté de pratiquer? Ah ouais, OK.
Oui, pour ma part, c'était bien parce que c'était comme c'était canné, puis quand je la revoyais ou quand je revisitais la voix, j'étais contente parce que ça avait comme... Il y avait quelque chose qui avait mûri dans la voix, puis je trouvais ça bien, bien intéressant de revisiter une voix.
Puis Véronique Dicker à Vegas, à un moment donné, est-ce que tu t'es dit, coudonc, qu'est-ce que je suis en train de vivre là? Tu sais, ça devait être exceptionnel, tout ça, là.
Ben oui, surtout quand on est arrivé, puis là, on a fait nos valises, là, puis qu'on avait loué une maison, fait que là, on avait fait plusieurs voyages avant. Donc, on est allé louer une maison, on est revenu. Après ça, quand on a fait nos valises là, pour déménager à Vegas, là, on est arrivé, puis on sort, puis à Las Vegas, le terminal, où est-ce qu'on arrive, il faut descendre les escaliers roulants, puis s'en aller chercher nos valises en bas. Puis quand on descend les escaliers roulants, il y a une énorme télé qui, en répétition, passe les shows qu'il y a. Puis moi, ça s'était donné que moi, quand je suis arrivée dans les escaliers, j'ai fait... C'était Véronique Voices avec ma face. Là, j'ai dit « Oh my God! » Et là, quand tu vas chercher tes valises, encore une fois, il y a des écrans. Véronique Voices encore. Et là, on sort, puis on prend le taxi. Encore sur les taxis, plein de Véronique Voices. Là, honnêtement, j'ai pogné de quoi. J'ai fait « Iii! Oh wow! OK, ça, c'est énorme! C'est énorme! C'est énorme, Las Vegas! » C'est énorme aussi dans le choix qui est offert au public. Puis ça, c'est énorme. C'est-à-dire qu'il y a des Cirque du Soleil, il y a des restaurants, il y a des gros spectacles comme Céline Dion, Britney Spears et tout. C'est énorme. Alors, il faut vraiment se démarquer quand on va là. Puis moi, ben c'est ça un peu la mise en marché. C'était vraiment comme... une imitatrice, plusieurs voix, un entertainer. Donc, on devait vraiment travailler fort, puis encore une fois, aller faire des entrevues, s'impliquer beaucoup, beaucoup dans la communauté, vraiment beaucoup, comme j'allais faire des shows bénéfices là, tout le temps, pour se faire connaître, mais aussi pour dire qu'on fait partie de la communauté. Donc, ça, c'était très, très, très important. Donc, j'étais devenue une fille qui vivait à Vegas puis qui avait ses petites habitudes. C'était assez spécial.
Est-ce que Parce que Vegas, ce qui est intéressant, puis en même temps, ce qui peut être particulier quand tu es résidente, c'est le renouvellement aux 4-5 jours. Tu sais, il y a tout le temps du nouveau monde qui arrive. Fait que veux, veux pas, ton marketing est à renouveler tout le temps, constamment. Il y a une clientèle qui habite à Vegas, mais pour le reste, la plupart, c'est du tourisme. Ça devait être assez complexe d'aller chercher ces gens-là. Puis est-ce que c'était des gens du Québec qui venaient te voir ou c'était des gens d'un peu partout
aux J'avais États-Unis? Du monde de partout. Ça, c'était le fun. Par exemple. De voir que quand je leur posais la question, tu sais, j'ai-tu du monde du Canada? J'ai-tu du monde du Québec? Puis là, ça criait. Hey, ça me touchait beaucoup. Mais il y avait beaucoup de gens des États-Unis aussi qui venaient me voir. Il y avait beaucoup d'Américains qui venaient me voir. Puis... ce show-là, c'est vrai que ce que tu dis, que les locaux vont pas voir de show. Les gens de Vegas vont pas voir de spectacle à Las Vegas. C'est très, très rare. Puis moi, j'étais devenue comme le show local. Fait que là...
La résidente.
Tout le monde... Ouais. Ben oui, j'étais résidente. Fait que là, c'était comme... J'avais plein de gens qui amenaient leur famille, mais qui étaient pas... Tu sais, puis ils venaient sur la strip, puis... C'était pas des gens qui avaient l'habitude de venir sur la strip. Beaucoup de gens aussi qui travaillaient dans les casinos. Beaucoup de bachelorette party. Moi, j'étais devenue la spécialiste des bachelorette party. Là, les filles qui se marient, qui vont faire des enterrements de vie de filles. Là. Écoute, j'étais rendue l'experte. J'en avais tout le temps. Puis, il y avait des gens qui étaient venus pour vendre mon spectacle dans des différents hôtels. Donc, qui vendait beaucoup, beaucoup mon spectacle aussi. Donc, tu sais, ce qui fait que je me ramassais avec plein de gens de partout à travers le monde. J'avais des Français, des Québécois, des Ontariens, des Américains. Puis c'était vraiment très particulier là, de sentir que mon spectacle était comme très... très diversifié là, par rapport au public que j'avais.
Puis, on parlait de ta prestation de Céline, devant Céline. Est-ce que c'est arrivé aux États-Unis que tu croises des artistes qui viennent à ton spectacle et tu dis, t'as peu, t'es en train de l'imiter, là. J'ai l'impression que c'est moi sur scène. C'est arrivé, ouais?
Ah, ben oui. Déjà, la soirée de première, évidemment, toute l'équipe de promo avait organisé. Hey, j'ai fait Entertainment Tonight avec Céline. Tu sais, c'était comme dans mes premières entrevues en anglais avec une grosse télé. Là, c'est freaking Entertainment Tonight. À l'époque, tu sais, on n'avait pas tant les réseaux sociaux. Donc, c'était beaucoup par la télé. J'étais assise avec Céline puis avec la fille de Entertainment Tonight que je connais, tu sais, ben, que je connais pas personnellement, mais que je vois à la télé puis je fais oh, « wow!
Okay. » Je suis là, là.
Puis là... Écoute, là, c'est incroyable. Puis là, le tapis rouge, 15 minutes avant, je faisais le tapis rouge. 15 minutes avant mon spectacle, je faisais le tapis rouge. Puis évidemment, Céline est restée. Donc ça, c'était le fun qu'elle soit là, puis je la voyais les bras dans les airs, puis m'encourager. Fait que ça, c'était très le fun. Après ça, il y a eu Shania Twain qui est venue voir le show parce qu'elle aussi, elle avait son spectacle au Caesars Palace, là, au bord de la rue.
Shania Twain, qui est une fille de chez vous?
Ben, qui est une fille de Timmins.
Ben oui.
Puis ça, c'était très drôle parce qu'elle est venue voir le show. Puis je savais dans quelle banquette elle était assise. Fait que là, je fais le show. Puis normalement, je devais faire Shania Twain, genre à ma droite, tu sais. Puis là, j'étais trop nerveuse. Fait que je suis complètement allée à gauche. L'éclairagiste a fait qu'est-ce qu'elle fait? Il a tout changé les lumières pour venir me mettre sur le spotlight. Parce que j'étais tellement intimidée de faire le show devant elle. Puis après ça, je l'ai vue. Puis on s'est parlé en français parce qu'elle parle super bien en français. Puis on a pu échanger parce que je connais très bien Timmins. Fait qu'on a échangé sur plusieurs boutiques qu'il y avait à Timmins. Puis elle a dit oh non, telle boutique, c'est encore là. Puis. Hey non, mais on a ri, là. C'était vraiment... Ça, c'était le fun. Puis j'ai fait le show, pas à Vegas, mais en Belgique. Lara Fabian était venue voir mon show aussi en Belgique. Ça, j'avais bien apprécié.
Ah, ben c'est le fun. Je rappelle que ce soir, on a le plaisir d'être avec Véronique Dicker. Véronique Dicker qui a un tout nouveau spectacle. On parle de représentations qui sont prévues au Québec, en France et en Belgique, ainsi qu'en Suisse. On va faire une très courte pause et on revient tout de suite avec elle parce qu'il y a des petites dates qui sont prévues, là, si je ne me trompe pas, dans les prochains mois. Donc, si c'est possible pour vous, allez la voir. Entre autres, ce sera au Capitole de Québec les 2 et 3 septembre prochains. On fait une courte pause et on revient.
Marceau le soir. Marceau le matin. Donc,
j'ai le plaisir d'accueillir Charles Deschamps et Anthony Réliard, qui sont les cerveaux derrière le phénomène humoristique Le Gang Show.
C'est salut, messieurs.
Fois qu'on parle de moi comme cerveau du Gang Show.
C'est vrai?
Dans la même phrase, là.
Ben, merci,
c'est
Jeff.
Bon, hein?
J'aime ça.
Fait que là, il reste encore de la place pour un humoriste le 24.
Ouais,
si vous voulez le faire.
Ouais, si quelqu'un nous écoute en ce moment.
Et mon chum Jeff, là, qui est un grand humoriste, mettons qu'il veut participer au Gang Show le 24 avril à la salle Albert Rousseau. Il fait quoi?
J'ai rien d'un humoriste.
On te confirme direct là.
Fais-nous pas honte.
Salle Albert Rousseau, 24 avril, il faut que je fasse un 3 minutes en humour.
T'es-tu game?
Ouais.
OK, je vais y aller.
C'est vrai?
Ouais, hey,
on a un 9e participant! C'est réglé! Ouais. Toi, t'es-tu game?
Non. Là, comment qu'on écrit ça, les 3 minutes d'humour, là?
Ah, ben ça, c'est ton problème. Ouais, arrange-toi.
Okay. Marceau, le matin, en semaine, 6h.
Ce segment d'émission présenté par Chapeau Ben Lévis qui fête son premier anniversaire. Chapeau Ben, le centre de liquidation présent à Québec, Lévis et Saint-Georges. ChapeauBen.com. Ce segment d'émission présenté par Chapeau Ben Lévis qui fête son premier anniversaire. Chapeau Ben, le centre de liquidation présent à Québec, Lévis et Saint-Georges. ChapeauBen.com.
Chez Sport Expert et Atmosphère, achetez ce qu'il vous faut pour bouger ce printemps. Obtenez 25 $ en carte promo à l'achat de 125 $. Détail en magasin, choisissez Sport Expert d'ici.
Ici PA Méthode pour Sainte-Foy-Nissan et Beauport-Nissan. Êtes-vous du genre que ça vous prend vraiment une bonne occasion pour changer d'auto? Écoutez bien l'annonce, ça se pourrait que ça fasse votre journée.
Et comment? Ce mois-ci, durant l'événement Mettez-nous au défi, le Nissan Rogue est offert à partir de 0% d'intérêt en location sur 36 mois. Et 0%, ce serait dur d'aller plus bas. Alors, c'est le temps pour quoi? Tous les détails chez Sainte-Foy-Nissan et Beauport-Nissan.
Chez Tyson, ton destin est entre tes mains. Avec nos biscuits de fortune à craquer, tu as tout à gagner. Cours la chance de remporter l'un des 100 000 prix instantanés et même du Général Tao gratuit toute l'année. Rends-toi chez Tyson ou au craquerpourgagner.ca.
C'est le plus gros événement de l'année chez Matelas Dauphin. La super vente d'entrepôt 48 heures à la Fabrique de Charny. Offrez-vous un matelas Dauphin au plus bas prix de l'année. Exemple, obtenez 50 % de rabais et plus sur tous les formats de matelas Infinité ultra confortable, garantie 15 ans, dont le grand est en super spécial à 599 $. Beaucoup, beaucoup d'autres spéciaux exceptionnels sur place. Jusqu'à dimanche, 17h, c'est la super vente d'entrepôt Matelas Dauphin, seulement à la Fabrique de Charny.
C'est l'événement 5 jours Lexus chez Boulevard Lexus. Obtenez le RZ350E Signature 2026, location 24 mois avec acompte à 788 $ par mois et le NX350 Premium 2026, location 24 mois avec acompte à 638 $ par mois.
Saviez-vous qu'il existe de nombreux crédits d'impôt auxquels vous pourriez avoir droit? Pour savoir lesquels, c'est simple. Consultez lejustepourtous.ca. Tous les crédits d'impôt disponibles sont là. Ainsi que vous soyez parent, aîné ou encore proche aidant, étudiant ou travailleur autonome, vous pourrez facilement identifier les crédits d'impôt qui vous concernent. Assurez-vous d'en bénéficier. Rendez-nous visite au justepourtous.ca. Un message de Revenu Québec.
Besoin d'une nouvelle paire de lunettes? Bonne nouvelle, chez Greshiska, vous en aurez deux. À l'achat d'une paire complète avec verre et monture, même des grandes marques, obtenez la deuxième en cadeau. Jusqu'au 2 mai, Chantal Gravel, opticienne. Détails et rendez-vous sur greche-scarf.com.
Transformez votre journée en jour de casino. Jouez au jackpot jetable en direct et plus. Découvrez les machines à sous les plus populaires comme Book of Dead et Immortal Romance et jouez la roulette au blackjack et à bien d'autres à Casino Days. Ouvert à tous les joueurs 18 ans et plus, ce site vous permet de vous amuser gratuitement. Veuillez jouer de manière responsable.
La vente étiquette rouge est de retour. Profitez du meilleur des deux mondes avec la Prius hybride branchable. Roulez jusqu'à 962 km avec une charge complète et un plein d'essence. Et profitez d'une autonomie électrique améliorée de 50 %. Ajoutez à ça une conduite dynamique propulsée par 220 chevaux. Comptez sur plus de 25 ans d'expertise avec les véhicules électrifiés. Obtenez jusqu'à 8000 $ en rabais gouvernementaux et incitatifs clients. Pendant la vente étiquette rouge, visitez achetezmatoyota.ca ou votre concessionnaire Toyota du Québec pour toutes les conditions.
T'as besoin de plus de temps dans ta journée, puis t'as ton permis classe 1 ou classe 3? Ça donne bien! Service alimentaire Gordon recrute! Avec une gamme d'avantages sociaux plus que complète et des horaires qui te permettent d'avoir encore plus de temps pour toi et ta famille, pourquoi tu te poses encore la question? Deviens chauffeur-livreur classe 1 ou classe 3 chez Service alimentaire Gordon. Simplifie ta vie, postule au recrutement à gfs.com.
Pour un temps limité, dégustez la poutine l'érablière dans vos fromageries Victoria. Frites croustillantes, fromage en grains frais, saucisses, jambon, oignons marinés. Le tout garni d'une touche de sirop d'érable qui goûte le Québec. L'érablière, une poutine parfaite pour se sucrer le bec. Fromagerie Victoria, familiale depuis 75 ans.
Voici le portrait. Tu veux t'acheter une voiture, t'en veux pas de neuve. Et tu veux faire ça simple. Ça l'est avec Kia Beauport. On a aussi de l'occasion. On fait partie du portrait. Rejoins la famille. Magazine au kiabeauport.com.
L'application Boulevard. Dans une poche près de chez vous. Poche de jeans. Poche de short. Pis même ta poche d'hockey. Appelez, textez, votez, réécoutez. L'app Boulevard 102.1. C'est plus que du rock. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le Marceau, soir. Le soir. Le soir.
La chanteuse et imitatrice Véronique Dicker est avec nous ce soir dans le podcast de Marceau au soir. Elle sera de passage au Capitole de Québec les 2 et 3 septembre prochains. Là, t'entends, mais nouveau spectacle, les nouvelles représentations qui sont prévues au Québec, en France et en Belgique, ainsi qu'en Suisse. Y a-tu des choses que t'as changées?
Ah oui, ben oui. Parce que le dernier spectacle avec José Fortier, qui est à la mise en scène, on avait décidé de vraiment... ramasser toutes les expériences scéniques, là, les danseurs, puis de vraiment mettre le paquet pour remercier le public qui me suivait depuis tant d'années. Donc, on était très lourd en tant que, tu sais, avec l'infographie, puis avec la scénographie des danseurs. Écoute, on avait mis le paquet. Puis c'est un spectacle que j'ai adoré faire. Puis là, quand on s'est mis à travailler, elle puis moi, puis qu'on était devant la page blanche, puis qu'on commençait à parler de plein de choses, d'anecdotes et tout, ben on s'est rendu compte que ce spectacle-là, qui se présentait devant nous, c'était un spectacle beaucoup plus intime, anecdotique, justement, de raconter justement ce parcours-là, de où ça a commencé, cette affaire-là, puis qu'est-ce qui s'est passé pendant que j'étais partie en France, des anecdotes là-bas, des anecdotes de Vegas, des anecdotes quand j'ai fait la première partie de Céline à travers le monde. Et ça s'accrochait aussi à un désir que j'avais de un peu m'inspirer du spectacle de Adele, An Audience with Adele, qui était un spectacle dans lequel elle était vraiment sur scène, puis elle répond à des questions, puis elle parle aux gens. Moi, je fais pas une soirée de questions, mais vraiment, j'avais envie de parler aux gens, puis de leur expliquer où est-ce que j'arrive, qu'est-ce qui s'est passé. Tu sais, on est entre deux spectacles, puis qu'on revient, on fait des entrevues. Il n'y a pas le moment de parler d'anecdotes loufoques qui s'est passé, tu sais. Donc, je trouvais ça le fun de pouvoir parler de ça, de pouvoir me poser et aussi accrocher à ça des chansons qui m'ont particulièrement touchée dans ces spectacles-là. Comme à Las Vegas, il y avait un moment précis que c'était un de mes moments préférés. Puis de le reproduire, parce que c'est pas tout le monde qui est venu voir le show Vegas. Donc, pour moi, c'est important de leur faire un peu toucher puis goûter à ce que j'ai vécu. Évidemment, on reste dans les imitations, mais je suis pas... Tu sais, je reste dans les imitations, mais il y a une nouvelle voix que j'intègre, puis c'est la voix de Véronique. Ça, j'avais vraiment envie de chanter dans ma voix pour mieux communiquer certaines émotions, certaines chansons qui sont rattachées à des émotions que... comme la première rencontre que j'ai eue avec Raymond, tu sais, la première danse. Donc, tu sais, de rattacher à ça la toune sur laquelle on a chanté, bien, c'est une chanson de Bryan Adams. J'imite pas Bryan Adams. Donc, de la chanter en moi, c'est beaucoup plus intime, je trouve, que de vouloir faire une imitation. Donc, c'est vraiment un spectacle. C'est comme Véronique, c'est une soirée avec V. Donc, c'est V qui vous reçoit. Puis, vraiment, c'est très touchant de voir comment les gens ont compris ma démarche artistique. Parce que pour moi, c'était très important de ne pas donner et de ne pas offrir du réchauffé. J'essaie toujours de me réinventer. Donc, si je fais chanter, par exemple, Marie-Carmen, ben il n'y a pas Entre l'ombre et la lumière. J'ai fait chanter un autre tune parce que c'est ça que je me donne comme défi à chaque fois. Que si je fais une imitation, ben c'est jamais la même chanson.
Très cool. Moi, ça me donne le goût d'aller voir ton spectacle au Capitole à Québec. Donc, je vais aller faire un tour très certainement. Je te souhaite un beau voyage en France et en Belgique ainsi qu'en Suisse. Je voulais te poser cette question-là parce que je ne l'ai jamais posée à quelqu'un qui fait des imitations. C'est-tu difficile de revenir à sa propre voix, à soi? Alors que tu es capable de faire tous les meilleurs artistes au monde, revenir à ta propre voix, est-ce que tu as de la difficulté? Puis est-ce que tu es meilleur parce que justement tu as expérimenté toutes les techniques?
Bien, à un moment donné, j'ai perdu ma voix en faisant des imitations. Au tout début, je travaillais avec ma professeure de chant, puis à un moment donné, c'était dans le temps de Noël, je me rappelle très bien. Puis là, on avait fait comme OK, wow, faut qu'on prenne du recul. Là, Véronique, là, tu vas partir chez toi, puis tu vas chanter des chansons de Noël en toi, puis là, abandonne-toi, puis pense plus à tes voix. C'était comme rendu trop complexe, il y avait trop de possibilités, puis je comprenais plus. Donc, c'est important, puis ça a été une leçon de me dire, OK, Véronique, ta voix, c'est la voix mère de toutes les autres voix, donc c'est hyper important que tu l'oublies pas, puis que tu la travailles, puis que tu chantes en toi. Puis aujourd'hui, je trouve que c'est facile de chanter en moi parce que on dirait que les imitations ont ouvert tellement de possibilités, tellement de chemins que j'ai beaucoup de plaisir à chanter avec ma voix. C'est beaucoup moins stressant, on dirait. Il y a comme une liberté qui s'est installée. Puis je pense que c'est grâce à mes imitations.
Ah ben pour ma part, on se donne rendez-vous les 2 et 3 septembre au Capitole à Québec. Sinon, toutes tes dates de spectacle sont disponibles sur véroniquedicaire.com.
Exact. Merci beaucoup.
Je te remercie beaucoup pour cette belle heure, puis ça a été un plaisir, puis on se reparlera peut-être dans quelques mois.
Merci beaucoup, Yannick.
Véronique Dicaire, merci. Je vous souhaite de passer une super belle soirée sur nos ondes et on se reparle demain. Bye-bye.
Marceau, le soir.
Ce segment d'émission présenté par Option Paysagiste. Imaginez une cour parfaite, pavée, piscine, éclairage chaleureux et espace pour relaxer et recevoir. Pour votre cour de rêve, c'est optionpaysagiste.ca.
Chez Sport Expert et Atmosphère, achetez ce qu'il vous faut pour bouger ce printemps. Obtenez 25 $ en carte promo à l'achat de 125 $. Détail en magasin, choisissez Sport Expert d'ici.
La puissance inégalée du GMC Sierra, vous la connaissez déjà. Sa capacité de remorquage, sa durabilité légendaire aussi. Mais saviez-vous que pendant le mois du camion, c'est le meilleur moment pour vous procurer un Sierra? Ben maintenant, vous le savez. Profitez du mois du camion pour louer le Sierra 1500 Pro Graphite 2026 pour l'équivalent de 158 $ par semaine pendant 27 mois. Valeur au détail de 71 735 $, versement initial de 4 699 $, 58 paiements aux 2 semaines de 316 $ et 20 sous du kilomètre après 16 000 km. Détails sur gmccanada.ca.
Chez Tyzone, ton destin est entre tes mains. Avec nos biscuits de fortune à craquer, tu as tout à gagner. Cours la chance de remporter l'un des 100 000 prix instantanés et même du Général Tao gratuit toute l'année. Rends-toi chez Tyzone ou au craquerpourgagner.ca.
La zone spectacle extérieur Le Chant du Festival Western de Saint-Tite revient en 2026 sur la scène SiriusXM. Dès le 11 septembre, voyez Max McKnown, Matt Lang, Cameron Whitcomb et Blake Whitton. Billets au fwst.ca.
Faites partie de la famille Kia Beauport. En avril, offrez-vous la Kia K4 2025 à partir de 85 $ par semaine à l'achat sur 84 mois. Passez-nous voir à Beauport.
Kia Beauport.
Le printemps, c'est le moment parfait pour améliorer votre confort. Jusqu'au 30 avril, profitez de jusqu'à 1 000 $ de rabais chez Enviro-Confort. Ajoutez à ça les remises manufacturières et les subventions disponibles. Thermopompe, chauffage, climatisation. Économisez maintenant. Soyez prêts pour l'été avec Enviro-Confort.
Les séries du tricolore, ça se vit chez Normandin. Dans tous les N-bar Normandin, regardez les matchs en profitant de 24 % de rabais sur la pizza, comme le numéro de Philippe Dano, et d'un prix spécial sur la pinte. Et pour le premier match, direction le N-Bar du Chemin Sainte-Foy pour une soirée des Ligues majeures. Nul autre que Bob le Chef sera votre barman avec chandail et carte cadeau à gagner. Portez votre chandail du tricolore et recevez une surprise Molson. Réservez votre place dès maintenant. Normandin, ça fait plaisir.
Boulevard 102.1.
Vous avez un témoignage, des préoccupations, une situation à dénoncer? Ça nous intéresse. Écrivez à Mathias Turcotte, notre journaliste terrain. citoyen@blvd.fm. 102.1.
Salut Nissan.
Salut Karine. On commence cette remise de prix?
Oh oui. Alors, le gagnant du meilleur choix sécurité selon l'IHS est...
pour une cinquième année, le Nissan Rogue.
Oui, bravo. Faut dire qu'avec son autonomie allant jusqu'à 800 km avec un seul plein, il part déjà gagnant.
Et son offre mérite aussi une mention.
C'est l'événement Mettez-nous au défi. Louez le Rogue S à partir de 0% pour 36 mois. Inclus réduction fidélité de 0,5% pour propriétaires Nissan admissibles. Jusqu'au 30 avril, sur approbation de crédit, les conditions s'appliquent. Détails chez Nissan.
Chez IGA, avec la garantie prix vérifié, profitez des plus bas prix sur les produits identifiés ou recevez la différence en .5+. Jusqu'au 15 avril, les mini-concombres sans pépins sont à 4 $ pour 908 grammes. IGA, on bouffe les prix. Magasin participant, détails à IGA.ca.
Plongez dans 888casino.net. Conçu pour jouir des machines à sous primées. Pour découvrir un monde de plaisir. C'est fait pour divertir. Pour se délecter de la roulette. Super!
C'est juste pour jouer.
Ouais, ça marche! 888casino.net. Fait pour jouer.
19 plus. Jeu gratuit uniquement. Jouer de façon responsable.
Un Ford, ça se penchait déjà. Un Ford.
Profitez d'offres exceptionnelles chez